Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce matin, c'est une réflexion sur deux textes. Et la réflexion, la méditation, le message, la prédication, l'homélie, ce qu'on veut dire, c'est le résumé de deux grandes vérités que nous allons dégager ensemble dans la lecture de ces deux textes. Allons lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Donc le premier texte est Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, et le deuxième, c'est dans l'Épître, la première épître de Jean, au chapitre 1er. D'abord, Éphésiens, chapitre 4. J'attends que tout le monde ait trouvé ce passage. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Premier texte. Et le deuxième, comme support, comme base de travail, c'est dans l'épître, la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. C'est vrai que ce sont des textes très riches. Nous pourrions passer plusieurs messages dessus. D'ailleurs, Jean-Claude, c'est ton dernier, a fait d'excellents messages sur la communion. Mais moi, je ne reviens pas dessus. Ce n'est pas le fruit de ma méditation. C'est simplement soulever deux vérités importantes dans la vie chrétienne. Par quoi un vrai chrétien se démarque-t-il de non-croyant? Comment reconnaît-on un authentique enfant de Dieu de celui qui dit croire en l'existence de Dieu? Quels sont les critères que nous pouvons mesurer pour affirmer qu'une personne est vraiment née de nouveau? Il me semble sur deux choses. Sa manière de marcher. Sa manière de marcher veut dire sa manière de vivre l'évangile. Et deuxièmement, sa communion avec Dieu. C'est-à-dire sa relation qu'il maintient avec Dieu. Les rapports qu'il entretient chaque jour avec Dieu. Il me semble deux choses. Sa manière de marcher et sa communion avec le Seigneur. La première grande vérité, mes amis, c'est que marcher avec Dieu et être en communion avec lui vont ensemble. Je ne peux pas dissocier les deux. Je ne peux pas séparer les deux notions. Être en communion avec Dieu veut dire marcher avec lui. Marcher avec Dieu veut dire vivre en communion avec lui. Et nous comprenons tous que être en communion avec Dieu, c'est plus que le simple fait de croire en l'existence de Dieu. Parce que croire que Dieu existe n'a jamais changé ni transformé le cœur des hommes. Paul nous dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans ce passage, l'apôtre Paul met l'accent sur ce qui est fondamental en tant que chrétien, la marche. Nous sommes tous appelés à marcher d'une manière digne de notre vocation céleste. Il y a marcher et marcher. Il y a deux manières de marcher comme deux chemins à suivre, comme deux maîtres à servir. Marcher selon l'évangile, c'est suivre l'enseignement de la Bible, la mettre en pratique. L'autre manière, c'est marcher selon notre propre volonté pour accomplir les désirs de la chair. Ce serait un non-sens d'imaginer que le chrétien doit rester assis ou debout. Être assis ou debout, ce n'est pas marcher. Christ nous appelle tous à marcher selon l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi marcher ? Parce que marcher, c'est avancer vers un but. Personne ne marche à l'aveuglette. Lorsque je mets un pied devant l'autre, c'est parce que j'ai un but à atteindre, n'est-ce pas ? Personne ne marche à l'aveuglette. Lorsque nous marchons, c'est un acte réfléchi. Après le culte, je vais marcher vers la sortie pour rentrer chez moi. Mon but, c'est de rentrer chez moi après le culte. Le matin, lorsque je me lève, je prends les transports en commun ou ma voiture, c'est pour aller sur mon lieu de travail. C'est un but. Lorsque je marche, une action réfléchie. Je réfléchis à l'endroit où je vais aller. J'ai toujours un but derrière la tête. Mais ma question, c'est quel est mon but lorsque je marche ? Est-ce que je fixe Jésus-Christ comme mon modèle à suivre ? Est-ce que Jésus-Christ est mon exemple à suivre ? Est-ce que je fixe les yeux sur moi-même ou sur les plaisirs de ce monde ? Quoi qu'il en soit, mes amis, nous avons tous un but à atteindre. Est-ce que c'est Jésus-Christ ? Ou est-ce que c'est les plaisirs de ce monde ? Ou est-ce que c'est moi-même ? En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à avoir un but à suivre. Et notre but suprême, mes amis, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Notre but suprême, c'est de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, de croître dans la sanctification. Un chrétien qui n'a pas ce but dans l'esprit doit implorer la grâce du Seigneur pour que Dieu puisse l'éclairer, afin qu'il puisse vivre dans cet objectif. Si en tant que chrétien, Dieu nous donne un but à suivre, Jésus-Christ, mes amis, sachant que Dieu lui-même, lui aussi, il a un but pour nous. Et le but pour nous, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ. Romains 8, verset 29 nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés afin que soyons tous semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le but de Dieu pour chacun d'entre nous, mes amis, c'est que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est le but suprême de Dieu. et Dieu mettra tout en œuvre pour que ce but soit atteint. Dès lors que moi aussi, j'ai envie de ressembler à Jésus-Christ. La première grande vérité, mes amis, c'est qu'en tant que chrétien, je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester debout. Je dois marcher. Nous sommes tous appelés à marcher conformément à l'enseignement de la parole de Dieu. Le chrétien qui dit que dans mon état actuel, c'est ce que Dieu a préparé pour moi, moi je dirais non. Dieu prépare toujours de plus grandes choses. Nous sommes appelés à aller toujours plus loin, plus haut avec le Seigneur. Deuxième grande vérité, pour marcher selon l'évangile, il faut être en communion avec Dieu. Je ne peux pas vivre les principes de la Bible si je ne désire pas demeurer dans la présence du Seigneur. Si je ne recherche pas l'œuvre de l'Esprit dans la vie, si je ne souhaite pas une œuvre de restauration et de sanctification profonde par le Saint-Esprit. Mes amis, chers frères et sœurs, chers visiteurs, n'oublions pas que notre Dieu est le potier et nous sommes les vases d'argile. Des vases d'argile entre les mains. Et Dieu nous façonne. Dieu nous émonde. Il enlève en nous tout ce qui ne vient pas de lui. En deux mots, Dieu notre Père fait une œuvre de purification. Dieu choisit de nous purifier. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que notre Père a choisi de nous rendre meilleurs. Dieu a choisi que nous devenions comme son Fils Jésus-Christ. Mais quelle grâce merveilleuse! Quel message de l'Évangile! De dire aux pécheurs perdus que ton Père céleste veut te rendre semblable à Jésus-Christ. Quel message, mes amis! Mais c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Nous savons tous que la pensée de la Bible, la pensée de Dieu, est radicalement différente de la pensée de l'homme. Être en communion avec Dieu, c'est le connaître personnellement. Non seulement c'est de le connaître, lisons ensemble, mes amis, Galates chapitre 4, verset 9. Galates chapitre 4, verset 9. Il y a un verbe qui apparaît qui est très fort. Galates 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Vous savez, être en communion avec Dieu, c'est non seulement le connaître, mais c'est d'être connu de Dieu. Et c'est là qui fait toute la différence, mes amis. Est-ce que je suis connu de Dieu? Est-ce que je suis inscrit sur la main de Dieu? Est-ce que Dieu me voit chaque jour sur mes mains? Suis-je connu de Dieu, mes amis? Suis-je connu de Dieu? Parce que si je suis connu de Dieu, alors c'est là toute la différence. Si je suis connu de Dieu, Dieu, dans sa grâce infinie, entreprendra son œuvre de purification, son œuvre de sanctification. Parce que je suis connu de lui. N'oublions pas que ceux qui sont connus d'avance, il les a prédestinés afin que nous soyons tous semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Parce que je suis connu de Dieu. Être en communion avec le Seigneur, c'est non seulement le connaître personnellement, mais c'est être connu de lui et marcher selon sa pensée. Alors, est-ce que nous pouvons connaître Dieu personnellement? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a fait la promesse qui se révélera dans le cœur de tous ses enfants. C'est une promesse, mes amis. Une promesse de l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 33 à 34, et qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 12. Je dis souvent lorsque j'enseigne, celui qui connaît toute la Bible, tant mieux pour lui et que Dieu le bénisse. Mais il y a certains passages que nous devons connaître par cœur, mes amis. Jérémie 31, Hébreux chapitre 8, font partie des passages à connaître par cœur. Parce que ce sont des passages qui nous parlent de cette nouvelle alliance. Je me permets de vous le lire, parce que c'est trop important. Hébreux chapitre 8, on pourrait dire, de nos jours, on dit que c'est le copier-coller. Alors, nous allons faire un copier-coller biblique. Donc, pardonnez-moi, on va reprendre Jérémie. Jérémie 31. Et c'est là où nous voyons cette unité dans la révélation de la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 31, voici ce qui est écrit par le prophète Jérémie. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères, avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole de l'Éternel dans Jérémie. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 8, c'est le copier-coller. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voilà. C'est exactement la même chose. Et je vais m'arrêter sur le verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Voilà. Donc, ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que cette promesse, Dieu l'a accomplie en Jésus-Christ. Oui, c'est possible aujourd'hui de connaître personnellement Dieu, parce que Dieu a fait la promesse. Et dans l'Église, non pas les murs, l'Église c'est le rassemblement de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, donc les chrétiens. L'Église qui est la manifestation visible du royaume de Dieu. Et je rappelle que nous sommes en train d'étudier l'histoire du royaume, le vendredi soir, donc je vous encourage à venir. Donc l'Église qui est la manifestation visible du royaume de Dieu, dans l'Église, tout chrétien a reçu la marque de Dieu dans son cœur. Aucun chrétien authentique ne peut dire « Je ne connais pas Dieu ». Ce n'est pas possible, mes amis. Parce que Dieu, lorsque nous venons à lui en Jésus-Christ, Dieu nous marque de son sceau. Et cette marque-là, c'est sa connaissance. C'est pourquoi il est dit « Du plus petit jusqu'au plus grand ». Du plus petit jusqu'au plus grand. Toute personne qui vient à Jésus-Christ, quel que soit son âge, reçoit la marque de Dieu dans son cœur. Et c'est pourquoi tout chrétien authentique est appelé à marcher. Celui qui est communion avec Dieu, donc celui qui connaît le Seigneur personnellement, ne peut pas rester assis. Il ne peut même pas rester debout. Il va marcher. Il va marcher. Il va marcher, il va rechercher à grandir dans la connaissance de Dieu. Il va rechercher à être au service de son Dieu. Parce que marcher, c'est aussi se mettre au service dans l'église. Marcher, c'est aussi dire, Seigneur, me voici, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi, pour que je puisse faire pour toi? Tout vrai, mes amis, tout vrai chrétien ne peut pas rester à ne rien faire. Tout vrai chrétien ne peut pas rester à ne rien faire. Parce qu'il a reçu la marque du Seigneur. Mais alors, qui est ce Dieu qui nous aime et qui veut que nous soyons en communion avec lui? Qui est ce Dieu? L'apôtre Jean va nous aider. C'est pourquoi maintenant on revient dans notre texte de base, dans 1 Jean, chapitre 1er, qu'on a lu tout à l'heure. Je me dépêche un petit peu parce que le temps passe. Alors, que nous dit l'apôtre Jean? L'apôtre Jean dit, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Le Dieu qui veut que nous marchions avec lui, le Dieu qui veut que nous soyons en communion avec lui, est lumière. Dieu est lumière est la grande révélation de la Bible. C'est la grande révélation de la Bible que les apôtres ont annoncé aux hommes. Dieu est lumière. Et ça nous rappelle ce beau passage du psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Savoir que Dieu est lumière, mes amis, surpasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est quoi la lumière? Quelle est la vocation d'une lumière? La lumière a pour vocation d'éclairer, de nous éclairer, mes amis. Lorsqu'on dit que Dieu est lumière, ça veut dire aussi et surtout qu'en Dieu, il n'y a rien qui soit proche de notre réalité de ce monde. Mauvais. Dieu est lumière veut dire que Dieu est radicalement différent de ce monde de péché, de notre nature pécheresse. Dieu est lumière. Dieu lumière veut dire que Dieu est vrai, que Dieu est vérité, Dieu est pur, Dieu est saint. Lorsque nous disons que nous marchons avec Dieu, nous marchons avec un Dieu de lumière, un Dieu de pureté, un Dieu de sainteté, un Dieu de vérité. Et nous comprenons tous, mes amis, que si nous marchons avec le Dieu de lumière, ma marche est dans la lumière. Ma marche doit être aussi pure, sainte, comme Dieu lui-même est lumière. Et le peuple dit Amen. Et c'est vrai. Mais mes amis, nous avons la chance, nous avons cette grâce merveilleuse de connaître un Dieu de lumière. Et on ne doit pas rester comme ça, mes amis. Au contraire, on doit être rempli de joie, d'espérance. On doit être rempli de reconnaissance, savoir que le Dieu de lumière a fait alliance avec nous. Le Dieu de lumière veut que nous marchions dans sa lumière. Mais Amen, mes amis. Quelle est la religion dans ce monde qui peut donner un tel message? Je n'en connais pas, mes amis. Seule la Bible, la parole de Dieu, qui éclaire tout homme, est capable de nous donner un tel message. Dieu est lumière, mes amis. Il n'y a rien de plus merveilleux de savoir que Dieu est lumière. Il est lumière, il va nous éclairer pour que nous puissions marcher toujours plus avec lui. Dieu lumière, ma marche doit être dans la lumière. Je dois donc possible m'écarter de toute voie ténébreuse. Je dois m'efforcer de suivre le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Je dois refuser les compromis qui me mèneront sur le chemin du mal. Parce que c'est, mes amis, c'est dans la lumière que Dieu fera son œuvre de sanctification. C'est dans la lumière, c'est dans sa présence. Dieu ne peut pas faire son œuvre si je me suis écarté de lui. C'est dans sa présence, mes amis. C'est dans la lumière que je suis appelé à grandir en Dieu. Dieu lumière. Mais Jean poursuit en nous disant aussi, au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'autre grande vérité dans cet encouragement, c'est que Dieu est fidèle. C'est vrai, le chemin est étroit. Le chemin n'est pas facile. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, des tentations de toutes sortes, des pièges à éviter. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a le découragement, le manque d'assurance. Le chemin étroit. C'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle parce que Dieu sait très bien que dans ce chemin étroit, nous allons tous tomber. Nous allons tous trébucher. Il le sait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner toutes les fois que nous lui demandons pardon. Rappelons-nous, le chrétien est appelé à marcher. Il ne peut pas rester assis. Il ne peut pas rester debout. Il est appelé à marcher conformément à l'évangile. Marcher veut dire être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, ça veut dire le connaître. Mais connaître aussi ce Dieu de lumière qui éclaire, qui va mettre le doigt sur le péché. Mais rappelons-nous aussi que ce Dieu qui met le doigt sur le péché est fidèle pour nous pardonner. Chaque fois que nous lui demandons pardon, c'est merveilleux. Parce que, en tant que chrétien, si je ne sais pas que Dieu est fidèle, si par exemple, voilà, j'ai bien loué le Seigneur, voilà, je suis en pleine forme, hein, j'ai bien loué le Seigneur, je trébuche, Dieu me pardonne. Parce que j'ai bien loué. Ouais, c'était très bien. Je passe après par un moment difficile. J'ai pas le cœur à louer. Alors, ça va pas, j'ai pas le cœur à louer. Je trébuche. Ah Seigneur, est-ce que tu vas me pardonner? Parce que j'ai pas eu le cœur à te louer. Bien sûr que non. Dieu reste fidèle, mes amis. Qu'on soit en pleine forme ou en mauvaise forme, si on lui demande pardon, il nous pardonne. Et sur le chemin étroit, j'ai besoin de savoir que ce Dieu-là est fidèle, que je peux toujours compter sur lui. Si à une seconde, à un moment donné, je ne peux pas compter sur Dieu, ma vie s'écroule. Mais notre Dieu, mes amis, il est dit dans sa parole, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, il est le rocher des siècles. Isaïe 26, verset 14. À tout moment, je peux compter sur la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle, mes amis? Ça veut dire quelqu'un qui ne change pas, égal à lui-même, qui ne varie pas, digne de confiance, digne de foi. Ce qu'il dit, il accomplit, mes amis. Et si Dieu a promis le pardon de nos péchés toutes les fois que nous confessons nos péchés, il va le faire. Quelle promesse merveilleuse, mes amis. Sur ce chemin étroit, j'ai besoin de savoir que derrière moi, il y a un Dieu fidèle, un Dieu juste, qui me pardonne, qui m'accompagne. Dieu est fidèle, mais il est aussi juste. Juste dans le sens où, si je confesse, au nom de Jésus-Christ, il me pardonne. Amen. Au nom de Jésus-Christ, mes amis. Parce que le Christ a fait couler son sang pour mes péchés. Dieu sait très bien, mes amis, que le chemin étroit n'est pas facile. Il le sait. Alors c'est pourquoi nous avons des assurances. L'assurance de sa fidélité. L'assurance de sa justice. Mais aussi, mes amis, l'assurance de son amour. Qui est merveilleux. Et ça, Jean nous le dit dans chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est lumière, il va m'éclairer. Il va mettre le doigt sur mes péchés. Il est fidèle et juste pour me pardonner. Mais au-dessus de ça, mes amis, ou au même niveau, il y a l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu nous a choisis par amour, que son plan de sanctification, il va l'accomplir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mes amis. Et nous savons tous que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Par amour. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans cette église, et je le dis en toute humilité, en toute reconnaissance, nos frères et nos sœurs africains m'ont fait comprendre que lorsque Dieu commence une œuvre, lorsque Dieu commence un travail, il va jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est ici que j'ai appris ça. Nous savons tous que Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit que la bonne œuvre que Dieu a commencée, nous le savons. Mais concrètement, ici, dans cette église, j'ai réalisé que lorsque Dieu a commencé une œuvre, il ne va pas s'arrêter, il ira jusqu'au bout. Et ce sont mes amis africains qui m'ont appris ça. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, mes amis. Et ça, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Donc, sur ce chemin étroit, où nous sommes appelés à être en communion avec le Seigneur, à marcher avec lui, n'oublions pas l'amour du Seigneur. C'est parce que Dieu nous aime qu'il va accomplir jusqu'au bout son œuvre. Amen. Et c'est pourquoi son plan de bénédiction, son plan de paix et de bonheur qu'il a prévu pour chacun de ses enfants s'accomplira jusqu'au bout parce qu'il nous aime. Aucune créature ne pourra s'opposer à l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. Aucune puissance ne pourra contester le plan que Dieu a formulé pour ses bien-aimés parce qu'il est amour. Amen. Donc pour conclure, mes amis, ce que je pourrais dire, marcher avec Dieu n'est pas facile. Mais nous avons l'assurance de la présence du Seigneur à nos côtés. Connaître Dieu est une grâce. Alors, désirons connaître toujours plus le Seigneur pour grandir dans sa connaissance. Et troisièmement, notre foi est basée dans le Dieu qui est lumière, fidèle, juste et amour. Amen. Alors que Dieu nous bénisse dans sa grâce et qu'il nous aide à marcher toujours plus loin avec lui, car telle est sa volonté. Amen.